Des sous et des amours. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Raoul Margena.
Pour la deuxième semaine, il est toujours docteur en sciences politiques, diplômé des universités belges et françaises, qui explique le petit accent, et chercheur... Il m'a tué. Chercheur à l'URFIG et pour Oxfam aussi, la célèbre ONG. Alors là, on va se lancer dans quelque chose de terrible, parce qu'il y a un petit quelque chose qui nous oppose, vous et moi, finalement. C'est que moi, des fois, je me sens vraiment très, très, très peu européenne. Et vous, visiblement, en tous les cas, c'est ce que vous dites dans l'introduction de votre livre qui s'appelle « Europe, la trahison des élites », donc qui est publié chez Fayard. Visiblement, vous dites « européen ». Vous pensez que c'est quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme raison d'être européenne, de me sentir européenne?
Mais je pense qu'il y a quelque chose d'important qui est commun au peuple d'Europe, qui n'a rien à voir avec la construction européenne, ce qu'on appelle la construction européenne, c'est-à-dire le processus politique qui est en cours depuis 1957, depuis le traité de Rome, et qui relève plutôt d'une vision de société, d'un modèle de société, peut-être même d'une civilisation européenne, qui se distingue assez fortement de ce qui se fait outre-Atlantique, comme tout autant fortement, sinon davantage encore, de ce qui a été tenté dans le modèle soviétique. Et j'ai trouvé ça, moi, dans un travail que j'ai fait sur l'histoire des constitutions en Europe. C'est en Europe et nulle part ailleurs dans le monde qu'au XVIIIe siècle, des gens de tous états ont formulé deux sortes d'exigences. Tout d'abord, des libertés individuelles. On était sous l'Ancien Régime partout. On était dans un régime despotique qui n'assurait pas les libertés individuelles minimales. Donc il y a tout un corpus de libertés qu'on a retrouvé, par exemple, et avec toute la solennité du texte, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789. Mais on a souvent oublié, trop souvent d'ailleurs, qu'en même temps, il suffit de relire, c'est publié, les cahiers de doléances, les fameux cahiers de doléances adressés aux états généraux convoqués par Louis XVI. Mais il faut aller aussi en Italie, par exemple, l'Italie n'existait pas encore comme telle, mais il y avait des républiques italiennes. Les Pays-Bas n'existaient pas, mais il y a eu à un moment une république batave. La Belgique n'existait pas, mais il y avait à Liège et en Brabant des mouvements révolutionnaires. En Allemagne aussi. Et qu'est-ce qu'on trouve dans tous ces textes dont on va retrouver, par exemple, la trace dans la constitution de l'an 1 de la République, de la constitution de 1793, des droits collectifs. Moi, j'ai trouvé dans ces textes, mais je vais le dire dans le français d'aujourd'hui, parce que c'était pas écrit comme ça, évidemment, mais des attentes pour assurer le logement. Des attentes pour qu'il y ait un salaire minimum garanti. Encore une fois, c'était pas formulé comme ça, mais que il y ait une sorte d'assurance, de certitude qu'au moins tout qui travaille toucherait un minimum convenu. Des attentes pour une sorte de pension de retraite. Bref, l'évocation de toute une série de droits sociaux, de droits gouvernementaux, de droits collectifs, pardon. Et ça, pour moi, c'est tout aussi important que les droits individuels, mais c'est la traduction d'un modèle de société. Parce que les droits collectifs, c'est la solidarité. Pour que ces droits puissent être exercés, il faut des mécanismes par lesquels on mutualise l'écoute. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la redistribution. Alors c'est ça pour moi le projet européen, c'est ça ce qui fait l'essence de l'Europe, c'est que depuis 200 ans, on s'emploie à construire un modèle de société où on organise la solidarité dans la liberté. mais c'est un couple indissociable pour les Européens. Pour les Américains, et c'est respectable, c'est leur choix, ils ont privilégié la liberté. C'est la liberté, rien que la liberté, toute la liberté, jusqu'à l'absurde. Et on le voit bien dans tous les problèmes que les habitants des États-Unis subissent du fait de la liberté de posséder des armes. Mais chaque fois qu'on essaye de limiter ça, on invoque le principe de liberté. Par contre, l'expérience soviétique, c'était la solidarité, mais dans la contrainte. Jusqu'à l'aberrant, jusqu'à l'horreur. Nous, on a essayé, dans un débat qui fut dur, parce que ça n'a jamais été octroyé, il a toujours fallu, à travers des conquêtes sociales, l'obtenir. Mais on a essayé de construire un modèle de société où on allie la solidarité dans la liberté. Et je dirais que le stade le plus avancé que l'on a connu, c'est dans l'immédiate après-guerre, après Deuxième Guerre mondiale, quand on a mis en œuvre le programme du Conseil national de la résistance, que l'on retrouve intégralement aujourd'hui, ou quasiment, dans le préambule de la Constitution de la Ve République. Public. Mais c'est ça l'Europe. Et ce n'est pas ce que je dis, j'évoque la Constitution française parce que je m'adresse à un public français, mais on retrouve exactement les mêmes droits, par exemple dans l'article 23 de la Constitution belge, dans la loi fondamentale allemande, dans la Constitution de l'Espagne redevenue démocratique, dans celle du Portugal, dans celle des Pays-Bas et dans celle de l'Italie. Ce qui fait que pour moi, l'identité de l'Europe et ce qui vaut la peine de se battre pour que ce soit protégé, c'est ça, c'est la solidarité dans la liberté, mais c'est aussi en fonction de ça que je remets en cause le modèle de construction européenne qu'on nous a quasiment imposé, parce qu'on nous a pas souvent demandé notre avis, depuis 1957, et qu'on va encore nous proposer là à l'occasion de la Constitution européenne qui est soumise à ratification.
Des sous et des hommes en compagnie de Raoul Marc Génard. Alors il y a encore, comme d'habitude, hein, me diront les auditeurs, je sais, un petit quelque chose que je comprends pas, parce que finalement cette Europe qu'on nous a construite, elle s'est faite, vous avez l'air de le dire vous-même, en dehors de la volonté des peuples. Et moi, je pense quand même que c'est un problème majeur, justement cette absence, cette spoliation de la voie démocratique, qui est peut-être liée au fait qu'il n'y a pas de peuple européen à proprement parler. Il n'y a pas de conscience d'être un peuple uni. Et d'ailleurs, comment pourrait-il y en avoir une ?
Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce constat. La première partie, oui, que la construction européenne se soit faite en dehors des peuples, à l'évidence. Mais je dirais qu'il y a eu, il faut se remettre dans le contexte des années 40-50, une espèce de chèque en blanc donné aux politiques pour assurer la paix. Mmh. Et je ne miserai pas cet acquis. Il suffit de parcourir nos livres d'histoire pour voir que vivre 60 ans sans que la France et la Prusse ou la France et l'Angleterre se fassent la guerre, c'est déjà un exploit. Et je pense qu'on ne doit pas passer ça par pertes et profits, c'est un acquis considérable. Il a sans doute été utilisé par les politiques pour que ce chèque en blanc soit étendu à d'autres matières que celle de ne plus faire la guerre. Et c'est là qu'on commence à être critique à juste titre. Cela dit, on peut dire qu'il n'y a pas de peuple européen, c'est vrai, mais moi je pense qu'il y a quand même grandissante et variable d'un pays à l'autre une conscience commune d'appartenir à l'Europe, à un modèle de société, à un modèle de civilisation. Je connais beaucoup de gens en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, qui ne voudraient pas vivre dans le modèle de société américain, et qui se rend bien compte de ce que nous avons en commun, nous, Européens. Il y a ce que nous avons en particularité, mais là, je dirais que c'est pas plus ni moins que ce qui différencie un habitant de Lille d'un habitant de Marseille. Un habitant d'Helsinki ou un habitant de Madrid, mais il y a aussi à côté de ces différences des choses qui nous sont communes. Le problème, c'est que, et c'est ça moi le procès que je fais à la construction européenne, c'est que l'Europe est devenue ce patrimoine commun, qui se renforce, parce que il y a des mouvements de jeunes aujourd'hui, de plus en plus on se déplace, de plus en plus on apprend à se connaître, à se découvrir, etc. Ce sentiment d'appartenance commune se renforce, mais d'un autre côté il est dévoyé pour la construction d'un projet politique qu'on appelle la construction européenne, qui s'appelle aujourd'hui l'Union européenne, qui ne répond pas à ce que nous avons en commun. Le projet tel qu'il se présente aujourd'hui, où on est allé très loin dans l'intégration commerciale, économique et financière, et nulle part dans l'intégration sociale, environnementale, et fiscale et politique, c'est un projet néolibéral. En fait, et moi c'est un petit peu le procès d'intention que je fais aux décideurs, c'est de s'être laissé aller à la tentation de revenir sur tous les acquis politiques et sociaux des 200 dernières années par le haut, par la construction européenne, en se servant de cette noble idée, parce que je suis convaincu que c'est une idée noble, de l'union des peuples d'Europe, pour construire un système à l'occasion duquel on démantèle les acquis démocratiques et les acquis sociaux.
C'est-à-dire finalement ce qui fondait même l'Europe.
Ce qui fondait même l'Europe. Et c'est pour ça que moi je viens de sortir une petite brochure que j'ai intitulée « Quand l'Union européenne tue l'Europe ». Parce que je suis convaincu, et je le démontre, et la constitution sur laquelle on va devoir se prononcer l'an prochain va dans ce sens-là aussi, c'est que cette construction européenne nie les valeurs fondamentales qui font que les peuples d'Europe sentent qu'ils ont quelque chose en commun.
Il y a un petit truc, encore une fois, que je comprends pas trop bien, mais parce que finalement, si on prend vos arguments, on pourrait se dire, oui, il faut que je sois européenne, mais du coup, on se retrouve dans le même camp que soient justement des libéraux ou des sociolibéraux, parce que Strauss-Kahn va se dire aussi très européen. Et d'ailleurs, il a un site qui prône cette idée-là, avec Pascal Lamy. Enfin, son site, j'en ai déjà parlé dans une émission précédente avec Bernard Cassel, je crois que c'est Europe à gauche ou gauche en Europe, quelque chose comme ça, c'est assez sidérant. Ça défend l'Europe et il y a Pascal Lamy.
Oui, oui, et il y a ceux qui défendent le nationalisme et il y a Le Pen et ses acolytes en Autriche et ailleurs. Moi, je ne veux pas me laisser enfermer dans cette alternative. Il y a de la place dans le débat politique et pas seulement en France. Et je peux en parler. Je reviens, là, il y a quelques semaines, du Forum social européen qui se tenait à Londres, où l'Europe a quand même été au centre des débats, quoi qu'en aient dit certains journalistes. Il y a une place pour ceux qui veulent une construction européenne conforme aux valeurs de l'Europe et qui considèrent que la solution, la réponse aux critiques qu'on est en droit de formuler sur l'Europe telle qu'elle nous est construite aujourd'hui, ce n'est ni le repli nationaliste, ni la fuite en avant néolibérale. Alors que des gens qui sont des complices du néolibéralisme osent encore se dire de gauche, c'est qu'ils misent sur la complexité des dossiers, la complexité des matières, la complexité du processus de construction européenne. En brouillant les cartes, ils créent des illusions. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à situer à gauche un Pascal Lamy et un Strauss-Kahn qui sont dans leurs actes. Je parle de leurs actes, je ne parle pas de leurs paroles, mais dans leurs actes, dans ce qu'ils ont fait quand l'un était ministre, dans ce qu'ils ont fait pendant 5 ans comme commissaire européen, qu'est-ce qu'ils ont proposé, pourquoi se sont-ils battus pour des formes avancées de néolibéralisme, c'est-à-dire pour des étapes vers le modèle américain et pas consolider ce modèle européen qui doit allier solidarité dans la liberté.
Écoutez, en tous les cas, vous m'avez convaincu. Ok, je suis pour l'Europe. L'embêtant, c'est que actuellement, ça brille pas par son aspect absolument démocratique. Alors, comment ça serait possible d'avoir une Europe qui répondrait aux exigences que vous définissiez, c'est-à-dire notamment d'un vrai projet social, la fameuse Europe sociale dont ils nous rebattent les oreilles, et en même temps qu'il soit démocratique?
Mais il faudrait la volonté politique, parce que je crois que tout ça, c'était tout à fait possible. Pourvu qu'il y ait eu la volonté politique, on aurait pu très bien, à fur et à mesure qu'on avançait dans l'intégration commerciale, économique et financière, avancer dans l'intégration politique. C'était évidemment le problème que les États concèdent aux institutions européennes une partie de leurs prérogatives, mais c'est assez étonnant de voir qu'ils ont accepté d'abandonner, d'avoir leur propre monnaie, ce qui est quand même une identification forte d'une nation, d'un État, mais qu'ils n'ont pas accepté de donner au Parlement européen, par exemple, le pouvoir de contrôler la Commission ou de contrôler le Conseil des ministres européens. Moi, je suis frappé d'un phénomène que j'appellerais le déclin de l'esprit démocratique. Et je pense que c'est pas nécessairement lié à la construction européenne. Je pense que c'est un phénomène beaucoup plus général, j'ai envie de dire global, qui doit trouver beaucoup d'explications, qu'il n'y en a pas une seule. Mais il semble que les générations de l'après-deuxième guerre mondiale se soient comportées comme si tout ce qui avait été acquis, à la fois sur le plan démocratique et social, était acquis pour toujours. Oubliant que ce qui avait été acquis était le résultat de luttes, qu'il avait fallu arracher. Et donc ceux qui ont dû lâcher, c'est faire comme s'ils étaient satisfaits d'avoir dû abandonner des prérogatives, comme si les classes possédantes et exploitantes, j'utilise peut-être des expressions d'un autre temps, mais elles sont toujours là, même si on les appelle autrement, n'avaient qu'une envie, c'est de reprendre ce qu'ils ont dû concéder quand des rapports de force leur étaient désagréables. Et on a assisté à une espèce de désertion, je n'hésite pas à utiliser le mot, d'abandon de poste de la part des citoyennes et des citoyens qui ont cessé d'être vigilants. Et la construction européenne a pu se faire dans ce contexte-là, où l'exigence d'avoir des institutions démocratiques, c'est-à-dire un exécutif qui est soumis au contrôle d'un législatif et à un vrai contrôle, ne s'est pas manifestée. Il n'y a pas eu de pression populaire pour que, dès le départ, les institutions européennes soient frappées du sceau de la démocratie. Ce n'est qu'en 79 que le Parlement européen est élu au suffrage universel. Et entre 1957 et 1979, on s'est parfaitement contenté d'une assemblée qui n'avait aucun pouvoir, sauf celui de donner des avis, c'est-à-dire des vœux pieux. Et encore, depuis 79, le Parlement européen tel qu'il existe est loin d'être un vrai Parlement. Et la constitution qu'on nous propose ne va pas améliorer sensiblement les choses. Elle va les améliorer sur deux points. C'est-à-dire que le Parlement européen, pour la première fois, va pouvoir voter le budget. Mais il ne pourra pas voter les recettes. Toujours pas. Il va pouvoir faire les lois, pourvu que, dans un mécanisme complexe qu'on appelle la codécision, et ce sera seulement sur 80 matières, pourvu que la Commission soit d'accord avec les textes du Parlement européen. Mais le Parlement européen ne pourra toujours pas proposer ses propres textes. Et en matière de contrôle politique sur l'exécutif, il n'aura pas le pouvoir de contrôler le contenu des politiques. Il pourra contrôler, ce qu'il fait déjà aujourd'hui, si la Commission européenne, le Conseil des ministres respecte les traités. Il pourra dire à l'entrée en vigueur d'une commission, je l'accepte ou pas, ce à quoi on vient d'assister, mais sur les choix politiques de la commission. Pendant les 5 ans de la législature, le Parlement européen ne pourra pas se prononcer. Il y a un exemple spectaculaire qu'on a vu au mois d'avril dernier, c'était l'ancien Parlement, avant les élections européennes, qui a adopté un texte demandant à la Commission de cesser de pousser à la privatisation de la distribution d'eau, à la fois en Europe et dans les négociations commerciales internationales vis-à-vis du reste du monde. Eh bien là, c'est un exercice de contrôle, il y a une majorité pour voter ce texte, mais ça n'a pas d'autre effet qu'un vœu pieux, parce que le Parlement européen n'a pas un pouvoir de contrôle. Donc on est en face de ce que les spécialistes appellent un déficit démocratique, mais qui est béant, qui est énorme, et que la constitution qu'on nous propose ne va améliorer qu'à la marge, pas d'une manière significative. Il y a donc un gros travail à faire, et je crois que le rejet de la constitution qu'on nous propose, c'est le signal le plus fort que les citoyennes et les citoyens pourraient utiliser pour exprimer leur mécontentement. Le 13 juin dernier, on avait les élections européennes, il y avait 350 millions d'électeurs inscrits, 200 millions ont décidé de ne pas voter, c'est-à-dire 60%. Aujourd'hui, le Parlement européen ne représente que 40% des inscrits. C'était une façon d'exprimer son mécontentement. Et les gens ne sont pas stupides. Ils se rendent bien compte que ces élections ne leur permettaient pas de dire « Ok, j'ai apprécié ce que la Commission européenne n'a pas fait, ou bien je ne suis pas content du tout ». elle ne leur permettait pas de dire le Conseil des ministres prend des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ça ce qui me semble le plus dramatique dans le déficit démocratique européen, c'est que les deux instances qui décident le plus, qui sont les plus importantes, la Commission européenne et le Conseil des ministres européens, comme tel, comme collège, eh bien les citoyens n'ont pas le pouvoir de dire ce qu'ils en pensent. On n'a aucune capacité de dire « ok, c'est bien » ou « je ne suis pas du tout content et je veux que vous retourniez à vos chères études ». Ce sont des exécutifs qui ne sont pas soumis à la sanction électorale. Et cela, la constitution qu'on nous propose ne change rien, rien du tout à cet aspect des choses. Et donc je crois que l'acte le plus important aujourd'hui qui est devant nous, et j'ai la faiblesse de penser que ce choix sur la constitution européenne, c'est peut-être le choix le plus important qu'on ait eu à faire depuis 1945, eh bien, on a l'occasion de dire, ce n'est pas de cette Europe-là que nous voulons. Nous voulons d'une Europe démocratique, nous voulons une Europe sociale dans la liberté. Mais ce n'est pas ce que cette Constitution nous propose. Et donc, si on en est convaincu, il faut non seulement le dire, mais il faut aller le dire le jour du référendum, il ne faut pas rester chez soi et il faut voter non.